Europa en directo desde Euradio Nantes.
L'Europe en direct sur Euradio Nantes.
Europe live on EU Radio Nantes.
Après cette respiration footballistique, mettons sur la table un autre sujet au cœur de l'actualité mondiale, la crise. Et cette question, faut-il plus ou moins de régulation? L'Europe est-elle encore l'échelon pertinent pour réguler dans la mondialisation? Que peuvent les députés européens face à la puissance du marché? Sont-ils en mesure de protéger les consommateurs européens? Quels secteurs doivent être régulés ou dérégulés? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir trois vice-président, Pascal Canfin, vice-président de la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale. Pascal Canfin, bonjour.
Bonjour.
Bernadette Vergniaud, bonjour.
Bonjour.
Vice-présidente de la commission du marché intérieur et de la protection du consommateur. Et Alain Cadec, vice-président de la commission pêche, bonjour.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interviewer, Thibaut Dumas. Thibaut, bonjour. Vous, bonjour.
Bonjour.
Vous nous posez la problématique avant d'entendre les réponses de nos députés.
Du nord au sud de l'Europe, de la droite à la gauche de l'échiquier politique européen, le terme de régulation est devenu un incontournable. Sur ce point, il y a clairement un avant et un après-crise, une crise qui a débuté il y a maintenant pratiquement 2 ans. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, résume clairement la situation. Laisser le marché tout régler ne fonctionne pas. Si dans le discours, tout le monde s'accorde sur cette idée, dans les actes, c'est plus compliqué. La régulation s'apparente parfois à une chimère dans l'Union européenne. Dans les faits, les libéralisations continuent, paris en ligne, services postaux ou encore transport ferroviaire, pour ne prendre que 3 exemples récents. D'autres secteurs, eux, restent ultra protégés, la pêche et l'agriculture, par exemple, et ce, aux dépens des pays pauvres de la planète.
Merci Thibault. Pour lancer le débat, écoutons la bonne parole, celle de la Commission, et en particulier celle de Jürgen Holmquist, directeur général de la Direction générale Marché intérieur et services de la Commission européenne, qui a raison entre les pourfendeurs et les défenseurs de la régulation.
Les gens qui disent que toute régulation est mauvaise et, ou toute régulation est bonne, tous les deux ont tort. Il faut certainement avoir de régulation, mais il faut le concevoir d'une façon qu'il marche bien, donne une possibilité de développer l'économie. Et dans ce cas-là, la régulation pourrait contribuer à la croissance économique, mais si on fait de mauvaises régulations, ce n'est pas une bonne chose, évidemment.
Pascal Canfin, vous êtes membre du groupe des Verts. Une réaction à ces propos de la Commission européenne ?
Oui, je suis aussi membre de la Commission Affaires économiques et monétaires au Parlement européen et l'ensemble des sujets qui ont trait à la régulation des marchés financiers sont en codécision et donc doivent être adoptés dans les mêmes termes par le Conseil, c'est-à-dire les États membres et par le Parlement. Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de différence entre les États d'un côté et le Parlement européen de l'autre qu'entre la gauche du Parlement européen et la droite du Parlement européen. Il y a une volonté ici majoritaire au sein du Parlement européen de réguler de manière beaucoup plus ambitieuse que ça n'a été fait jusqu'à présent et on se heurte au grand écart entre les discours des États membres, des chefs d'État, et les négociations, les positions de négociation qu'ils ont sur les sujets comme les fonds spéculatifs, comme la supervision des risques pris par les banques ou comme aujourd'hui même sur les rémunérations des traders.
Bernadette Vergniaud, membre du groupe socialiste, plus ou moins de régulation?
Alors, moi, je partage ce que vient de dire Pascal Canfin, parce que déjà, dès novembre 2008, le Parlement européen avait demandé dans un rapport plus de régulation au niveau des banques et un contrôle des agences de notation. On a vu ce qu'elles donnaient, les agences de notation, avec leurs notes AAA ou AAB, enfin bon, on a vu où on va. Mais je partage totalement le fait que nous sommes dans l'intergouvernemental. Nous ne sommes pas dans une vision européenne. Et le Parlement européen, heureusement maintenant avec le traité de Lisbonne, a plus de pouvoir. Il a une codécision, on en reparlera tout à l'heure. Il a une codécision au niveau du budget. Parce qu'en période de crise, il va falloir faire des choix, mais des choix dans des priorités. Et je pense que la priorité au niveau budgétaire, pour une politique budgétaire équilibrée, fiscalement partagée aussi dans un meilleur équilibre, et puis bien entendu des politiques commune qui nous manque, ça, le Parlement le demande depuis déjà plus de 2 ans, la Commission qui est inféodée totalement aux États membres, qui sont dans leurs petits intérêts nationaux boutiquiers,
Et la commission qui est l'exécutif, hein,
qui
répond au Conseil.
Normalement, la commission doit être la gardienne des traités. Mm-hmm. À part quelques commissaires, et moi je parle en toute objectivité, je suis du groupe socialiste et démocrate dans ce Parlement. J'ai un nouveau commissaire qui s'appelle Monsieur Barnier, qui n'est pas dans ma famille politique. C'est un homme qui a une vision européenne. J'ai travaillé avec Monsieur McCreevy, qui était le libéral total, qui nous a engagés. On a vu la directive, Wolkenstein, et ensuite, après, on a travaillé avec lui au niveau de la directive service. Nous avions un discours, le Parlement. Nous n'avons jamais été écoutés ni par la Commission, ni par les États, par le Conseil. Donc, il est temps que ça change. On n'a jamais dit qu'on était contre la concurrence, contre la compétitivité, mais en même temps, il faut des règles précises, claires et équilibrées pour tout le monde. Parce que le marché intérieur, il doit fonctionner, mais il ne doit pas fonctionner que pour le marché, il doit être aussi protecteur des citoyens.
Alain Cadec, votre avis sur cette question de la régulation ?
D'abord, c'est vrai que je partage tout à fait ce qu'ont dit mes collègues. Ici, c'est vrai que le Parlement.
Ça va être
c'est...
bien le débat.
Non, mais on n'est pas d'accord. Heureusement, on n'est pas d'accord sur tout. Mais là-dessus, on est d'accord parce que c'est vrai qu'ici, c'est quand même le règne du compromis sur beaucoup de choses. Heureusement, d'ailleurs, parce que je pense que c'est un élément important. On est tous d'accord aussi pour dire qu'il faut un véritable système de supervision, une véritable régulation. Cela étant, je voudrais mettre un petit bémol à ce que disait Thomas tout à l'heure.
Thibault,
tout à l'heure. Vous disiez que les produits de la pêche étaient des produits protégés. Non, malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis en train de commettre un rapport en ce moment, que je vais présenter bientôt à mes collègues de la Commission et en séance plénière, sur le régime des importations. On en reparlera tout à l'heure, si vous voulez. Oui. Mais malheureusement, les produits de la pêche et de l'aquaculture ne sont pas des produits protégés comme les produits agricoles. Cela étant, s'agissant de la régulation financière, on ne peut être que d'accord les uns et les autres sur le fait qu'évidemment, et je suis d'accord aussi sur le décalage qui existe entre le Conseil, entre les États et entre ce qui se fait au Parlement européen, c'est complètement vrai.
Mais vous parliez de la pêche, on y reviendra tout à l'heure, mais alors la vraie question qui se pose, si vous êtes tous d'accord, c'est que peuvent faire les députés européens à ce moment-là? On prend un exemple concret, la taxe sur les banques, c'est un vieux débat au Parlement européen. Monsieur Canfin, vous avez posé une question, il me semble, il n'y a pas longtemps à Monsieur Barroso, et on voit qu'aujourd'hui, à partir du moment où Mme Merkel et M. Sarkozy se saisissent de la question et vont la porter au G20, eh ben ça revient au premier plan. Qu'est-ce que peuvent faire les députés en matière de régulation sur la taxe bancaire, par exemple ?
En fait, il y a deux éléments qu'il ne faut pas mélanger. Il y a les sujets sur lesquels on est en codécision. Donc, par exemple, la rémunération des traders, les bonus des traders. C'est un sujet qui a été... Il y a eu des grands principes qui ont été évoqués au G20, sur lesquels les États se sont mis d'accord. Maintenant, il faut le transposer en droit européen. Hier, il y a deux jours, en commission des affaires économiques et monétaires au Parlement européen, on a voté la transposition de ces principes en allant un peu plus loin que ces principes, en disant par exemple qu'on voulait voir adopter en Europe la même règle que ce qu'Obama a fait aux États-Unis, c'est-à-dire que dans les banques aidées par le contribuable et qui n'ont pas encore remboursé, par exemple c'est le cas de Natixis en France et donc de Banque Populaire Caisse d'Épargne, le dirigeant de la banque ne doit pas avoir une rémunération fixe plus variable, tout compris, supérieure à 500 000 euros. C'est ce qu'Obama a fait aux États-Unis. Le Parlement européen, une majorité du Parlement européen, y compris la droite, a voté ce texte-là. Quand on négocie, on a commencé hier à négocier avec le Conseil, eh bien là, il n'y a plus personne. Alors qu'on a des grands discours des chefs d'État pour dire oui, il faut mettre fin aux abus de la rémunération des traders, quand concrètement on prend une règle qui n'est pas une règle totalement délirante puisqu'Obama l'a pris aux États-Unis, eh bien là les États sont contre.
Donc là-dessus
on a du pouvoir. Je vous ai expliqué qu'on est en codécision, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'accord entre le Parlement et le Conseil, la règle ne rentre pas en vigueur. Donc aujourd'hui, il faut savoir que, et c'est un problème pour l'Europe, beaucoup de sujets en matière de régulation financière, que ce soit sur les fonds spéculatifs, sur le contrôle des risques pris par les banques, sur les rémunérations, les sujets sont en négociation et pour l'instant les négociations n'avancent pas entre la majorité du Parlement, droite, gauche, écologistes, libéraux parfois, et les États. Donc c'est un point qui bloque pour l'instant. Donc on a du pouvoir, hein, mais on n'a pas le pouvoir d'imposer sa décision aux États. Et ensuite il y a un autre sujet sur lequel là on est complètement dans l'intergouvernemental, par exemple sur la taxe sur les transactions financières. Et là moi je le dis clairement, je prends 30 secondes et après j'arrête. La France... Et notamment, la France, le gouvernement ou le chef d'État, donc je me tourne vers le représentant du PPE, de l'UMP à cette table, est le pays qui bloque l'adoption d'une taxe sur les transactions financières dans la zone euro. il n'y aura pas de taxe sur les transactions financières au niveau mondial, parce que les États-Unis n'en veulent pas et parce que le FMI a rendu un rapport récemment qui privilégie les taxes sur les banques au détriment des taxes sur les transactions financières. L'Allemagne a dit explicitement, nous voulons une taxe sur les transactions financières zone euro, même si les autres ne le font pas. Juncker, le président de l'Eurogroupe, a dit, il y a une majorité écrasante au sein de l'Eurogroupe pour dire ça. Le seul pays, et vous reprenez l'ensemble des déclarations françaises, le seul pays qui bloque cette avancée majeure en termes de régulation, c'est la France. Et là, je trouve qu'il n'y a pas assez de pression politique de notre part, j'ai à nous, Europe Écologie, mon collègue socialiste qui, je pense, partage cet avis, et médiatique pour dénoncer ça, parce que là, on est dans l'hypocrisie la plus totale de la part de la France.
Et il n'y a pas que la France.
Bernadette Vergnaud.
Je voudrais reprendre ce que dit Pascal, mais il n'y a pas que la France, hein, parce que quand même, je pense que l'Allemagne a une grosse responsabilité dans ce qui s'est passé ces dernières semaines par rapport à la Grèce. Elle a oublié la valeur essentielle qui était quand même la solidarité au niveau du projet européen des pères fondateurs. Et je crois qu'on a accentué les difficultés. Mais là où je suis d'accord avec Pascal, quand il dit que la France est contre et bloque sur la taxe sur les transactions financières, il n'y a pas que la France. Il y a aussi au Parlement européen, Pascal, on a eu un vote il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, sur la politique de viabilité financière en période de crise, un rapport qui était présenté par Lim Van Nieuwkerk. Et je suis désolée de vous le dire, Monsieur Cadec, mais toute l'UMP a voté contre l'amendement où on demandait une taxe sur les transactions financières. Alors, quand j'entends le discours aujourd'hui, je me dis, on a peut-être pris conscience en 3 semaines, on a peut-être avancé, mais on a pris surtout beaucoup de retard par irresponsabilité politique.
Alors Alain Cadec, vous êtes membre du groupe PPE, vous ne représentez pas l'UMP ici au Parlement européen, mais vous pouvez réagir tout de même.
Non, je ne représente pas l'UMP, mais je suis membre de l'UMP et très content d'être membre de l'UMP.
Ah, d'accord.
Donc s'agissant de la taxe sur les transactions financières, c'est vrai, mais c'est vrai aussi que le gouvernement français et particulièrement le président de la République souhaite une gouvernance financière, non pas à l'échelle de la zone euro maintenant, mais à l'échelle de l'Europe,
oui,
c'est-à-dire des 27.
La
quoi,
question hein. Et
le problème, il est là.
Pas
quoi.
Oui, bien sûr, mais il n'y a pas d'accord au niveau mondial.
Parce que
si l'Angleterre ne veut pas le faire, d'accord qu'est-ce que vous dites? Vous dites donc on ne fait rien. Vous dites donc on ne fait rien, ou vous dites, comme Angela Merkel, comme Juncker, qui ne sont pas des révolutionnaires, ça se saurait, dire OK, on y va. Parce que techniquement, c'est pesable. Toutes les transactions qui sont faites dans le monde, qu'elles soient faites à Singapour, à New York ou ailleurs, qui sont faites en euros.
Je suis convaincu qu'on va finir par y aller.
Ah ben, écoutez,
de toute façon, c'est la raison pour laquelle on échange, y compris avec le président de la République, y compris avec les ministres, sur ce dossier-là, qui est un dossier évidemment très important.
Bon courage.
Je pense qu'il faut.
Pris beaucoup de retard et c'est préjudiciable.
Du courage, on en a, et on a aussi une volonté farouche de mettre en place de la régulation.
Non, on a manqué de courage.
Euradio Nantes en direct du Parlement.
Euradio Nantes.
Un an après les élections européennes, qu'avez-vous fait depuis, chers eurodéputés? Qu'avez-vous fait notamment pour sortir l'Europe de la crise? Autour de la table, Pascal Canfin, eurodéputé vert, vice-président de la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale. Bernadette Vergnaud, eurodéputée socialiste, vice-présidente de la commission du marché intérieur et de la protection du consommateur. Et Alain Cadec, eurodéputé conservateur, vice-président de la commission pêche. Et à mes côtés, Thibaut Dumas.
Donc à l'intérieur de l'UE, la question de la régulation se pose dans des secteurs précis. On va revenir sur l'exemple de la pêche, parce qu'on m'avait interpellé tout à l'heure. Donc vous allez remettre un rapport, j'ai lu le pré-rapport déjà, donc a priori ça sera voté en juillet, c'est ça
le 6 juillet, je crois, le 5
d'accord,
ou 6
juillet. D'accord, voilà. Donc pour résumer, donc ce rapport, vous interpellez beaucoup la Commission, et le livre vert principalement la Commission, sur le thème, vous prenez pas ça en compte les importations, et le fait qu'il y ait beaucoup de bateaux de pêche qui viennent pêcher dans les eaux maritimes de l'Union européenne. En même temps, on voit que la pêche est un secteur extrêmement régulé, avec des quotas extrêmement durs, et vous avez même dénoncé ça quand la Commission européenne a annoncé fermer la saison de pêche avant la date dite.
Alors attendez, il y a plusieurs questions là, dans votre propos. La première concerne la protection ou non des produits de la pêche et de l'aquaculture. C'est non aujourd'hui, puisque seuls les produits agricoles sont considérés comme des produits sensibles. Ce que je demande, c'est que les produits de la pêche et de l'aquaculture deviennent des produits sensibles au même titre que ces produits-là. Et ne soient pas victimes de ce qu'on appelle, alors c'est un peu barbare, mais la formule suisse, qui en fait fait que si on continue comme ça, dans 5 ans, 6 ans ou 7 ans, on aura zéro droit de douane pour les produits importés. Donc il faut préserver. Alors c'est pas du protectionnisme, c'est simplement un combat contre. Alors pardonnez-moi, là aussi vous verrez que c'est, on peut se retrouver, un combat contre un ultralibéralisme sauvage. Vous voyez, c'est moi qui le dis, tout simplement.
Et vous ne trouvez pas qu'il y a trop de régulation dans l'Union européenne et pas assez aux frontières?
J'ai pas honte à le dire. Oui, complètement, bien sûr, évidemment. Donc il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on arrive à la fois à préserver notre pêche, nos pêcheries, mais aussi à aider les pays en voie de développement à développer leur propre pêcherie. Il faut trouver un juste équilibre. Et c'est la raison pour laquelle il faut mettre en place des outils qui nous permettent de réguler ces marchés. Encore une fois, de la régulation. Régulation qu'il n'y a pas aujourd'hui. Parce que sinon, on va sacrifier sur l'autel de l'ultralibéralisme la pêche européenne. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas être dans les papiers de M. De Gucht en ce moment.
Mais il y a un problème quand même avec les pays du Sud. Il y a beaucoup de pays du Sud qui disent par exemple que sur l'agriculture, sur la pêche, les quotas, les aides de l'Union européenne empêchent le développement d'une pêche et d'une agriculture locale dans ces pays-là au Sud.
Non, ces pays-là sont malheureusement exploités par d'autres pays émergents. Il se trouve qu'il y a une concurrence complètement déloyale avec les pays de l'Union européenne. Tout à fait déloyale parce qu'il n'y a aucune traçabilité financière, environnementale, sanitaire, sociale. Ils ne respectent même pas les règlements de l'OIT, ces pays-là. Donc c'est quand même un minimum qu'on peut demander. Enfin, je veux dire, c'est la moindre des choses qui nous permettra de lutter à armes égales, nous, Européens, avec ces pays-là, tout en essayant de les aider à se développer de manière, j'allais dire, intelligente et pertinente.
Bernadette Vergnon.
La pêche, en fait, on peut parler au-delà de la pêche.
Bien sûr,
moi, je crois que ce qui est très important, c'est surtout qu'on fasse des contrôles beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapprochés sur la grande pêche industrielle. C'est ça l'important. Hein. La pêche artisanale, elle existe depuis des siècles et elle n'a jamais mis en danger, comme la pêche industrielle le fait à l'heure actuelle, nos ressources en pêche. Mais là où je rejoins, la pêche, on déborde là, parce que les contrôles, là je travaille sur la directive, sur la sécurité et la protection des consommateurs. Et nous avons eu la semaine dernière un colloque organisé par la présidence espagnole sur la protection des consommateurs et des citoyens. Et nous avions, la présidence espagnole avait invité les États-Unis et la Chine. Et là, nous avons énormément avancé dans le sens où nous avons décidé de développer RAPEX. Vous savez, le RAPEX, c'est ce contrôle aux frontières sans être totalement protectionniste. Il ne faut surtout pas, dans une période de crise, céder à la forteresse Europe, parce que ça, c'est vraiment la porte ouverte au populisme et on commence déjà à le sentir. Surtout pas. Mais la protection, c'est important pour les citoyens. Et dans cette directive-là, nous avons mis en place des contrôles douaniers, des contrôles de sécurité, on va travailler sur un nouveau label européen et des critères partagés. Et alors les États-Unis, quand même, depuis Obama, ça a évolué. Ils ont créé une agence de protection au niveau de la consommation. Et nous avons travaillé pendant 3 jours avec la directrice de cette agence et nous avons énormément travaillé dans le même sens. Ça, c'est important pour le commerce mondial. Et nous avons fait rentrer les règles de l'OIT dans cette directive. Alors, il nous reste encore le problème de la Chine parce qu'ils étaient là. Et bon, on n'a pas abouti avec eux, mais on va essayer d'aboutir, on ne va pas tout faire en un jour.
Prenons un autre exemple, Bernadette Vergnon, qui vous concerne, je pense, directement en tant que vice-présidente de la commission du marché intérieur et des protections des consommateurs. L'ouverture des paris en ligne le 8 juin dernier, hein, c'est 3 jours avant l'ouverture de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est un bienfait pour le consommateur européen ?
Alors, ça peut être vu comme un bienfait parce qu'effectivement, ça va c'est une ouverture, il y aura du plus de choix, etc. Alors moi, ce que je condamne...
Donc dérégulons.
Non. Ah non, non, non. Ce que je condamne, c'est qu'il n'y a pas de contrôle derrière et de règles, justement. Et ces paris en ligne, l'argent va être... Il y a des sommes énormes qui vont être mises en place dans ces paris en ligne. Tant que c'était la Française des Jeux ou le PMU, l'État contrôlait. Et on savait où allait l'argent. Alors après, on était d'accord ou pas. J'étais pas souvent d'accord avec la redistribution, mais ça c'est un autre problème, un autre sujet. Mais là, on ne va plus rien contrôler. Et alors, on peut mettre en danger des mineurs, des personnes vulnérables, et surtout, on ne contrôlera pas ce que c'est que cet argent. Est-ce que c'est de l'argent qui vient d'un blanchiment quelconque? Et on n'a absolument aucun moyen de contrôler les fraudes. Moi, je trouve ça très dangereux.
Pascal Canfin, une réaction très courte.
Un mot sur les deux sujets, sur la pêche. Je ne dirais pas que l'Europe sur-régule ou régule trop. On voit bien qu'aujourd'hui, le principal problème de la pêche à terme, déjà aujourd'hui, c'est le fait qu'il y ait moins en moins de poissons. Et
c'est
demain,
la ressource,
il
n'y
aura pas, et il y a pas de pêcheurs sans poissons. Donc la meilleure façon de protéger les pêcheurs, c'est de faire en sorte qu'on protège les poissons de manière intelligente, bien évidemment.
Est-ce qu'elle régule mal l'Europe, en fait? Sur la pêche.
Je pense qu'elle ne va pas encore assez loin dans le fait, d'une part, de mettre des contraintes environnementales, mais en même temps de proposer des moyens de reconversion, parce qu'il ne s'agit pas uniquement, évidemment, de mettre des contraintes environnementales et puis de dire aux pêcheurs, maintenant, on vous laisse, tant pis pour vous. Il s'agit de faire les deux, et je pense que sur les deux aspects, reconversion et contraintes environnementales, elle pourra aller plus loin. Sur les jeux, c'est purement franco-français, mais il faut quand même souligner...
C'était à la demande
Ce que j'allais dire est purement franco-français, c'est que quand même, la façon dont ça s'est passé en urgence, alors qu'on est en pleine crise et qu'il fallait quand même satisfaire des intérêts privés, comme vous le dites, pour aller à l'encontre de monopoles publics au service d'intérêts privés qui sont extrêmement proches des amis du président. Honnêtement, c'est quand même le cumul de tout ce qu'on peut critiquer dans la Sarkozy.
Non, là, Pascal, là, vous allez un peu loin.
Il y a quand même quelques familles concernées par les jeux qui sont très proches de le président.
S'il fallait qu'on parle des amis du président, on pourrait parler d'autres présidents et d'autres amis du président, vous savez.
Alors là, aucun problème, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais enfin, je veux dire, le fait que les autres fassent des bêtises ne vous exonère pas d'en faire. Mais quand on pense qu'il faut 4 ans, 3 ans pour faire une loi sur le Grenelle de l'environnement, alors que c'était censé être un des grands projets, et qu'il faut quelques semaines pour faire une loi sur les jeux en ligne qui n'a aucun intérêt.
Restons, s'il vous plaît, sur le terrain européen.
Vous voyez que nous ne sommes pas d'accord sur tout.
Vous êtes très bien comme ça. Vous avez une tendance à revenir sur le terrain national.
Non. Europa en directo desde Radio Nantes.
L'Europe en direct sur Euradio Nantes.
Et pourtant, live on Euradio Nantes. Et pourtant, nous sommes bien au Parlement européen à Strasbourg, ici, pour discuter de la crise en Europe. Plus de régulation, moins de régulation. Et puis, cette crise, finalement, elle permet de reposer différemment la question de la régulation en Europe et à l'échelle mondiale. N'est-ce pas finalement une chance de cette crise? Écoutez, à ce propos, Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État en charge du commerce extérieur en France.
Je crois que la crise permet d'abord d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe ailleurs dans le monde et donc de resserrer les rangs, en quelque sorte, ou de nous donner une occasion nouvelle de relancer l'investissement, de développer l'innovation, de nous mettre en situation de bonne compétition avec les pays émergents qui tous travaillent sur l'innovation, qui tous travaillent sur l'économie verte et qui tous recherchent ce que l'on trouve en Europe. C'est pour ça qu'il ne faut pas être défaitiste, c'est-à-dire un marché bien organisé, des infrastructures de qualité, une très bonne productivité.
Propos recueillis par Alexandra Brunois. La crise, une chance pour l'Europe, Pascal Canfin?
Une chance, non. Une opportunité. Transformer en fait la crise en opportunité, oui, c'est la responsabilité aujourd'hui de mener les bonnes politiques. Et pour ça, il y a des éléments dans l'intervention qui vient d'être faite par Anne-Marie Drac qui évidemment me satisfont, c'est la question de l'économie verte. Nous, on considère que cette transformation écologique de l'économie pour répondre aux grands défis du 21e siècle, c'est la clé aussi pour sortir de la crise à court terme en matière d'investissement, de création massive d'emplois potentiels, de diminution de la facture énergétique. Je ne sais pas si vous le savez, mais la totalité du pétrole que l'on achète en France, hein, c'est un chiffre français, à l'étranger représente 8% du PIB, c'est-à-dire l'équivalent du déficit budgétaire. Donc on a, en faisant des investissements massifs dans les économies d'énergie, on aurait la possibilité de diminuer massivement notre dépendance et l'argent qui part à l'extérieur. Et donc c'est une voie, l'économie verte et l'investissement vert, c'est clairement une voie pour demain, mais aussi pour aujourd'hui, pour sortir de la crise. Malheureusement, encore une fois, on trouve que les décisions concrètes qui sont prises en France comme en Europe ne vont pas assez loin dans ce sens.
Bernadette Vergniaud.
Oui, alors je dis un peu comme Pascal, on va saisir le fait qu'on est dans la crise pour pouvoir avancer différemment et plus vite et plus intelligemment. Alors moi je vois, et Monet disait que l'Europe s'était toujours construite dans les crises, j'espère que nous allons prendre conscience, c'est complémentaire à ce que vient de dire Pascal Canfin, qu'il nous faut quand même, pour faire une vraie politique d'innovation dans les nouvelles technologies, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans les technologies de recherche médicale, etc., Il nous faut une vraie politique de recherche commune européenne. Moi, je le demande depuis 3-4 ans. Je demande une politique industrielle commune européenne. On a fait des programmes nationaux qui sont même pas complémentaires les uns des autres parce qu'on est encore dans le national alors qu'on devrait être dans l'européen. J'espère, et hier soir j'étais en dîner avec les grandes entreprises françaises qui étaient toutes d'accord avec moi pour dire qu'il fallait une politique de recherche européenne et une politique industrielle européenne dans les nouvelles technologies et dans effectivement les emplois verts, les emplois qui peuvent créer de la croissance, des emplois non délocalisables. Eh bien, peut-être que ça nous a fait prendre conscience rapidement maintenant qu'il faut agir en commun. Et quand je parlais du budget et du pouvoir des eurodéputés, jusqu'à présent, on n'avait pas le pouvoir au niveau budgétaire. C'est là que ça va se jouer. Parce que si on veut faire des vraies politiques européennes, créant des emplois et préservant l'environnement et sécurisant les citoyens, eh bien, ça va se jouer au niveau de la politique budgétaire et le Parlement aura son rôle à jouer. Et je pense que là, nous allons trouver une majorité.
Alain Cadec, les 30 dernières secondes de ce débat sont à vous.
Les 30 dernières secondes, c'est gentil. Non, les propos d'Anne-Marie Idrac ont au moins le mérite de rendre un peu plus, comment dirais-je, c'est vrai qu'on traverse une crise difficile, qu'on est tous dans la sinistrose, et qu'au moins les propos d'Anne-Marie Idrac, c'est comme le disaient mes collègues d'ailleurs, ont au moins le mérite de positiver un petit peu une période qui est extrêmement difficile, extrêmement dure. Et c'est vrai qu'on a besoin de travailler dans cette recherche, dans le développement, c'est nécessaire si on veut pouvoir combattre à armes égales avec nos concurrents des pays émergents.
Alain Cadec, Bernadette Vergnaud, Pascal Canfin, merci d'avoir répondu.